Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, comme tous les ans, à cette époque, donc je vous propose de vous présenter en avant-première le programme de conférences de l'année prochaine, donc à partir du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril 2018. Donc déjà, je vais poser une question dans la salle en vitesse. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas inscrites à l'UTB dans la salle? Il n'y a pas de honte, hein? Levez bien le bras, je vois un petit peu, là. Voilà. Bien, 10 à 15 personnes. Voilà, d'accord. OK. Merci. Alors maintenant, je pose à ces questions-là. Est-ce que vous connaissiez l'UTB avant de venir? Oui. Vous le connaissiez grâce à des amis? Oui. Grâce au JSL? Non. D'accord. On est bien d'accord. Bien. Donc, l'exposé que je vais vous faire va être disponible en libre chargement sur le site internet de l'UTB. J'en parlerai tout à fait à la fin. Donc, ce diaporama, ainsi que l'enregistrement de tout ce que je raconte, si vous voulez. Donc, vous pourrez le réécouter à l'envie, si vraiment ça vous a passionné, ou si vous voulez réviser. Voilà. Alors, l'objectif de cette séance, évidemment, tout le monde ne peut pas venir, et donc c'est de faire savoir à vos amis par mail ou par le bouche à oreille, de dire, eh bien, il y a une présentation, si tu veux savoir de quoi il retourne, eh bien, tu vas sur le site internet de l'UTB. Bien, on y va. Alors, je dis la même chose tous les ans, donc on s'appuie toujours sur l'expérience des années précédentes pour essayer de bâtir l'année suivante, et en fonction des réactions que l'on capte plus ou moins de notre public, de nos adhérents. Une information que d'aucuns d'entre vous connaissent, c'est qu'on a à nouveau battu notre record d'adhésion, et on a, pour la première fois de notre existence, battu notre record de plus de 700 adhérents. Donc ça, c'est vital absolument pour nous, puisque je rappelle que notre seule ressource financière monétaire, ce sont nos cotisations, soit nos cotisations de base, soit les cotisations complémentaires pour les activités payantes et diverses et variées. Donc on tient beaucoup à faire le maximum de publicité, c'est pas seulement pour se grossir et s'auto-satisfaire du nombre d'adhérents, mais plus il y a d'adhérents, plus on a de moyens financiers, plus on peut faire venir des conférenciers, plus on a des moyens techniques qui nous permettent d'assurer les prestations, etc., etc. Et vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire à de multiples reprises, on est passé d'une ère traditionnelle, et que c'est un peu le cas de toutes les activités où on gérait ça d'une façon tout à fait sympathique et simple, maintenant une organisation compliquée et sophistiquée avec de l'informatique, des sites internet et des choses comme ça. Et tout ça, ça se fait pas simplement claquant dans les doigts. Il faut non seulement des compétences, mais il faut également des ressources financières pour mettre ces outils en place. Ah oui, oui, j'en suis bien conscient. Il faut changer de salle, hein, parce que ça résonne, mais je peux pas faire mieux, hein. Eh ben oui, c'est la salle qui fait ça, c'est pas moi. Bien. Alors, traditionnellement, donc, nous avons un catalogue annuel que l'on appelle traditionnellement la plaquette, dont vous connaissez le look, avec une petite mosaïque en noir et blanc sur la première page, qui représente quelques thèmes qui vont être développés dans la saison. Donc, ce catalogue sera disponible à la distribution à partir du 7-8 juin. Donc il est en cours d'impression. Alors ensuite, je rappelle également que nous essayons depuis plusieurs années de faire des thèmes transversaux, c'est-à-dire au lieu de papillonner sur des sujets très variés, sur des sujets qui sont quand même largement traités, c'est-à-dire l'histoire de l'art ou l'histoire en particulier, et bien de faire des sujets qui soient un petit peu connexes de telle façon que on puisse avoir la perception de cette, de la période ou de, du thème à travers des exposés de conférenciers différents. Si vous écoutez des conférences d'histoire, même sur le même sujet, vous savez très bien que vous aurez des façons de raconter l'histoire complètement différentes suivant la personnalité et le talent de chaque conférencier. Alors voilà les thèmes. Donc en histoire de l'art, on va encore continuer à développer des thématiques autour de l'art contemporain, de l'illustration. Alors qu'est-ce que c'est que l'illustration ? C'est la période qui va du deuxième tiers du XIXe siècle jusqu'au premier tiers du XXe siècle, où la photo n'avait pas l'importance qu'elle a maintenant dans les magazines, et donc tout ce qui était imagerie dans les supports de presse, c'était fait par gravure, lithogravure, des choses comme ça, et donc ça c'est une période de l'art qui est tout à fait significative et particulière, et qui sera déclinée d'une façon très approfondie. Une thématique sur la couleur, la signification physiologique et artistique de la couleur. Les impressionnistes, donc Claudie Roger va continuer son cycle sur les peintres impressionnistes, mais on arrive un petit peu à la fin du cycle. Au niveau période historique, on se concentre à nouveau et toujours entre la fin de la guerre de 70 et la guerre de 14, pour l'essentiel. Il y a quelques débordements ici ou là en fonction des sujets. Aussi bien sur de l'événementiel que sur des questions sociologiques ou transversales. À travers cette période, on regardera des grands personnages de la période. En particulier, on a pris la reine Victoria, puisque je rappelle que nous avons fait il y a 2 ans la période napoléonienne, le Second Empire. Donc il faut avoir le symétrique de l'autre côté, c'est la période victorienne et édouardienne, Édouard VII, c'était son fils, comme vous le savez. On va parler de la naissance du protestantisme, puisque, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, 2017, c'est le 500e anniversaire des thèses de Luther, hein, donc qui ont lancé la réforme protestante, 1517. Les thèses de Luther, et on aura une conférence sur Luther, bien sûr. Et on vous parlera largement de la fission nucléaire et de la bombe atomique. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, avançons sur le thématique de l'histoire de l'art. Alors, cette année, on a 2 conférenciers qui vont nous parler de la thématique de la couleur. La couleur sous sa matérialisation sous différentes formes artistiques. Là, j'ai mis des exemples, disons, d'architecture, et donc vous comprenez la raison pour laquelle on voit le nom d'Anixpey, dont l'architecture est un des thèmes tout à fait favoris, hein, et donc elle expliquera la naissance progressive du rôle de la couleur dans l'expression artistique, essentiellement dans l'architecture. Alors, l'impressionnisme, donc Claudie Roger va, on va dire, finir le cycle, puisque je rappelle, la période impressionniste est très courte historiquement, elle s'étale presque sur 20 ans seulement, et c'est un continuum dans la succession des écoles artistiques, et donc on va faire la limite du post-impressionnisme et qui amorcera les écoles suivantes, avec ces thématiques ici. Alors, Damien Capelazzi, vous savez, un de nos conférenciers vedettes d'histoire de l'art, après longue discussion, nous a proposé de faire 2 conférences sur l'art à Munich. Alors, vous savez qu'à Munich, il y a un magnifique musée, enfin, il y a même 2 musées, le musée de Alte Pinakothek, donc le musée de peinture ancienne, qui est absolument époustouflant, si vous ne connaissez pas. Et il a choisi pour illustrer la période moderne de Kandinsky, donc le XXe siècle, Kandinsky, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, donc il a choisi ce peintre-là, qu'on n'a jamais évoqué d'ailleurs depuis plus de 15 ans à l'UTB. Alors, pourquoi on a choisi ça? Tout simplement, puisque vous savez, traditionnellement, Damien Capellazzi nous propose un voyage qui est associé aux conférences qu'il propose, et nous avons choisi Munich, parce que on a un peu épuisé tous les lieux de visite dans les années précédentes, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Allemagne, l'Allemagne c'est en Allemagne, mais l'Italie, on a vraiment fait beaucoup de voyages, en Espagne également, donc on a choisi ça qu'on n'avait pas fait depuis fort longtemps à l'UTB. Ah, alors donc on va... Mathieu Pinette, nous lui avons demandé de traiter des choses dont on parle en général peu dans l'histoire de l'art classique. Elle est considérée comme de l'art un petit peu conventionnel. Ce sont les orientalistes et les pré-raphaélites. Pré-raphaélites, c'est un nom qui a germé au Royaume-Uni à la fin du 19e siècle. Et les orientalistes, tout le monde sait de quoi il s'agit. Ça couvre à peu près la même période. Et en fait, on voit pas tant que ça de peinture dans les musées, tout simplement parce que 90% de la production reste toujours dans des collections privées. À l'époque, c'était très tendance. Et on aura donc 2x2 conférences sur ces thématiques-là qu'on a, à ma connaissance, jamais abordées. Alors, on va avoir une conférence sur Gustave Doré. Alors, Gustave Doré, vous connaissez tous Gustave Doré, c'est un graveur célébrissime qui a illustré, entre autres, Pantagruel, Don Quichotte, et il a gagné un argent fou avec ses gravures. Mais c'était un peintre, refoulé, puisque c'est un peintre absolument époustouflant, mais ses pairs ne l'ont jamais reconnu parce qu'il gagnait de l'argent avec la gravure. Donc c'était mauvais, ça, gagner de l'argent. Pour être célèbre dans le monde de l'art, il fallait être un petit peu pauvre et non pas riche. Ça se faisait pas. Il se trouve que Gustave Doré a passé au moins son adolescence à Bourg-en-Bresse et on aura une visite à Brou où on verra, on nous fera une exposition spécialement pour nous en sortant des placards, des gravures de Gustave Doré, des originaux. Hein, voilà. Et on verra quand même quelques peintures absolument époustouflantes. On y était allé il y a quelques années, 5 ou 6 ans, c'était très bien, et en particulier Dante aux Enfers, un tableau absolument monumental qui est toujours à Brou, hein, qui fait 4 mètres sur 5 à peu près, qui est tout à fait spectaculaire. Et donc c'est le conservateur de ce musée qui viendra nous parler de Gustave Doré. Alors pourquoi on a choisi Gustave Doré? Il est emblématique de l'art de l'illustration, c'est-à-dire... ce qui a fait Florès à la fin du 19e siècle dans ce qu'on appelle les périodiques. Frédéric Cousin va nous parler de thèmes, il aime bien de thèmes un petit peu variés autour de l'art dit moderne, contemporain, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, donc Magritte, hein, c'est un surréaliste on va dire, mais il est très atypique dans le paysage. Donc, oui, Magritte, même si on ne le connaît pas, on reconnaît tout de suite sa patte dans ses tableaux. Voilà un de ses tableaux. Et le nouveau réalisme, c'est-à-dire c'est essentiellement dans la sculpture, où on a beaucoup maintenant dans le paysage urbain des sculptures monumentales qui sont des... vous voyez, un magnifique pouce, là. Alors, je ne sais plus dans quelle ville ça se trouve. Voilà. Et donc, on aura des conférences sur cette chose-là. Et pour avoir quelque chose de transversal, eh bien, Monsieur Curnier-Laroche, qui était venu nous parler du Caravage, voilà, l'an dernier. Alors, c'est pas du tout de l'art moderne, là, le Caravage, donc il va nous faire une présentation, donc un peu transversale sur l'art moderne. Thématique que Mathieu Pinette avait fait dans un de ses ateliers cette année. Ah bon, d'accord. Bien. Monsieur Reynaud, Je salue la présence de M. Reynaud qui nous a été délégué par le conseil départemental pour venir assister à mon exposé. On en remercie et retransmettez bien ces informations puisque vous n'étiez pas là. Ma présentation ainsi que l'enregistrement audio va être disponible librement sur notre site internet. Donc vous pouvez envoyer le lien à des collègues et vous pouvez le diffuser librement. Alors, en art contemporain, on va prendre deux exemples hyper emblématiques et hyper spéculatifs. Jeff Koons, vous savez, c'est celui qui fait des sculptures très controversées, hein, qui mélangent l'ultramodernisme avec l'art classique, hein. Il a fait des choses à Versailles qui ont été tout à fait, qui ont suscité beaucoup de polémiques. Il est jeune. Et sa petite sculpture ici, c'est, je crois qu'il l'a fait pour 110 millions de dollars. Et ses œuvres atteignent des prix absolument astronomiques. Et un autre artiste qui est très à la mode, c'est David Hockney, et l'art anglais. Et donc c'est Roger Courreau, qui nous a fait déjà d'excellentes conférences d'histoire de l'art, qui nous parlera de ces deux artistes. Alors, revenons maintenant à l'âge d'or de l'illustration, ce que je vous disais. Tout le monde connaît, entre autres, le supplément illustré du Petit Journal, avec ses scènes absolument extraordinaires, hein, et par exemple la dégradation du capitaine Dreyfus, qui est célébrissime. Mais ça a correspondu, si vous voulez, on peut considérer que c'est une école d'art, hein, et qui s'est développé d'une façon absolument extraordinaire, qui ensuite a eu des conséquences dans le mouvement artistique. Alors, ce processus, il a démarré essentiellement en Europe, hein, aussi bien en Angleterre qu'en France et en Allemagne, et ensuite, avec 20 ans d'écart, je vous ai fait une conférence en dernier sur Norman Rockwell, que vous voyez ici. Enfin, là, c'est les Kendayer, donc c'en est un autre, mais enfin, c'est la même période. Et donc, les grands illustrateurs des magazines, je dirais, de 1900 à 1940, à la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il y a une floraison absolument extraordinaire d'un genre artistique qui n'avait pas d'équivalent antérieur dans l'histoire de l'art. Alors, on essaye toujours de trouver un thème, on va dire, local, et peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de cet artiste, Félix Ziem. Alors, c'est un peintre qui a fait essentiellement des marines, comme vous le voyez, hein, dans le style un peu orientaliste. Et quelle est sa particularité? Il a été très à la mode à la fin du 19e siècle. Il y a beaucoup de ses œuvres qui sont toujours dans des collections privées, et il a une particularité, il est né à Beaune. Tout simplement, et donc à Beaune, on a des... et c'est la directrice des musées de Beaune qui vient de nous parler de Félix Ziem, avec une barbe absolument impressionnante, comme beaucoup d'artistes à cette époque. Alors, on continue le cycle sur l'architecture moderne, hein, que nous fait M. Cyril Brûlé, qui est très intéressant, un jeune architecte qui a une quarantaine d'années, qui vient nous rendre visite une fois par an et qui vient de Saulieu, et il nous fera les exposés sur la Villa Noailles et la Maison de Verre de Pierre Charot. Alors, à la demande générale, Madame Annick Le Guerrer, qui nous avait enchanté notre odorat, hein, puisqu'elle nous a fait il y a 2 ans une conférence sur l'histoire du parfum. Elle nous a fait une conférence l'année dernière sur George Sand, écrivain olfactif. Et là, évidemment, le vin et les odeurs, vin et parfum, le lien est évident. Donc, je rappelle qu'au début, on la prenait un petit peu, quand elle a commencé ses études, un petit peu comme... une originale. Elle nous l'a expliqué d'ailleurs très bien pendant ses conférences, et finalement maintenant elle est reconnue au plan français comme étant la spécialiste du parfum au sens j'allais dire culturel et artistique. Une autre thématique sur l'art, c'est l'alimentation dans l'art. Alors évidemment, là, j'ai choisi une nature morte très, très alimentaire, hein, voilà, hein, très spectaculaire. Et on verra M. Patrice Nordet, qui vient d'Agrosup, il nous a fait des conférences d'agronomie, mais il nous a dit, tiens, cette année, je vous propose quelque chose qui est à la limite entre la culture et l'art, si vous voulez. Hein. Et on va l'écouter avec plaisir, c'est un excellent enseignant, hein. C'est un enseignant, c'est pas un chercheur, c'est vraiment un enseignant. Et évidemment, je vous ai cité la période entre la guerre de 70 et la guerre de 14 et la Belle Époque. La Belle Époque, dont tout le monde parle, mais personne ne sait ce que c'est. Hein. Et donc, on a choisi un thème, la mode à la Belle Époque. Alors, vous voyez les dames, quelquefois c'est encore plus spectaculaire, on va dire, que ce que vous pouvez voir sur cette photo, mais les hommes avaient de la gueule, il faut reconnaître. Hein. Le chapeau claque, ça, bon. Donc, Christophe Audoux, qui est enseignant au lycée Émile Angoté, là, sur justement la couture, enfin bon, la mode, d'une façon générale, qui nous avait déjà fait une conférence sur la mode, a accepté très volontiers de prendre ce thème-là. Je rappelle au passage qu'on essaye de solliciter des enseignants qui sont en activité ou qui sont jeunes retraités des lycées de Chalon, parce que ça nous permet d'avoir une interaction forte, parce qu'on peut les joindre facilement et discuter avec eux des thèmes qui sont susceptibles de nous proposer en conférence. Alors, Madame Petrini-Poli, qui vient de nous faire une balade, ça s'est bien passé, la balade sur les croix, là, une balade autour des croix et sentiers de Saône-et-Loire. C'était le thème de sa conférence et donc ça a été illustré par une petite sortie il y a quelques jours. Et donc, comme on l'apprécie beaucoup, elle est très, très intéressante dans ses exposés, elle nous a proposé ce sujet-là, donc les vitraux, toujours la Saône-et-Loire. Des vitraux, c'est qu'il y a des vitraux partout, mais on les regarde sans les regarder. Donc c'est intéressant d'avoir une universitaire qui puisse nous le mettre en exergue. Voilà la grande famille de l'histoire de l'art, on va dire plutôt picturale ou plastique, mais l'histoire de l'art, évidemment, ça inclut également la musique, le théâtre et choses thématiques qu'on verra à la fin de ma liste. Alors, l'histoire, c'est le deuxième grand bloc, alors l'histoire sous tous ses aspects, et je passe en revue les thèmes que nous vous proposons. Alors là, un thème très bourguignon, hein, l'histoire de la toison d'or. Hein. Donc, la toison d'or, c'est une décoration que les ducs de Bourgogne ont inventée pour faire la pièce à la jarretière, hein, parce que c'était une contre-mesure, si vous voulez, en disant « Ah, tu as fait la jarretière, ben moi je vais faire la toison d'or. » Donc, elle nous expliquera tout ça. C'est une enseignante qui intervient à l'UTB de Beaune, hein, qui nous l'a recommandé vivement. Un de nos conférenciers vedettes et passionnants, c'est Monsieur Philippe Clemenceau, et qui va nous parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc il faut absolument que vous veniez écouter sa conférence. Et on a découvert ce personnage, enfin je n'en avais jamais entendu parler, vous non plus certainement, hein. On dirait aujourd'hui, c'est comme un condottiere, si vous voulez, italien, c'est-à-dire du XVIIe siècle. Il a tout fait, il était ecclésiastique, mais il a tué, c'était un personnage absolument extraordinaire qu'on peut même plus imaginer aujourd'hui dans notre civilisation, si vous voulez. Donc il a eu accès à des sources qui nous, pour lesquelles il va nous faire profiter de son érudition. Alors, M. Vion-Delphin, vous le connaissez maintenant bien, il vient déjà depuis 5 ou 6 ans. C'est un enseignant qui était prof d'histoire moderne, c'est-à-dire avant, entre le Moyen-Âge et la Révolution. On appelle ça comme ça, on appelle l'histoire moderne. Et c'est une période qui est très oubliée dans l'histoire. Maintenant, elle est un peu passée sous silence. Donc, on tient chaque année à remettre une thématique d'histoire moderne pour ne pas oublier. Alors, il va nous faire un cycle sur, il aime bien faire ça, sur l'histoire de la traite négrière, hein, et qui est beaucoup plus compliqué que les idées, un petit peu stéréotypées qu'on a sur la question. Je prends qu'une thématique, les esclaves noirs aux États-Unis, en cumul, ça n'a représenté que 5% de la traite négrière. Alors qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça qui a existé. Hein. L'essentiel de la traite se passait entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Du Sud, Brésil, Argentine, voilà. Ah voilà la reine Victoria, hein, la mère et la grand-mère et l'arrière-grand-mère de tous les souverains d'Europe. Hein. Maintenant, la reine Elisabeth II a réussi à battre son record de durée, hein, mais elle a régné pendant une période très longue. Et donc, on voit ici son fils. Pour aller jusqu'à la guerre 14, on va jusqu'à Édouard, et on ira jusqu'à... On parlera un petit peu de Georges V, qui est le fils à nouveau d'Édouard VII, qui est, parce que je crois qu'il est mort en 1912, pour couvrir un petit peu la guerre 14, puisqu'on aura quelques thématiques autour de la guerre 14. Alors là, j'ai remis, pour des raisons diverses, il y avait un cycle de M. Lyonnais sur l'histoire des Balkans, qu'il a été obligé d'annuler, de décaler, pour des raisons diverses et variées. Donc, il n'a fait qu'une conférence sur les trois qu'il avait prévu l'année dernière, et donc, il refait les deux dernières. Donc, on repart de la guerre de Crimée jusqu'à la période de 14. Et vous savez que les Balkans, c'est compliqué de compliqué. Et donc, beaucoup de choses qui se passent encore aujourd'hui dans cette région-là viennent trouver leur source dans les péripéties de ce qui s'est passé au milieu du 19e siècle. Alors, on va commencer à voir quelques vedettes, on va dire, dans les personnages célèbres de cette période. Évidemment, Jules Ferry, hein, Jules Ferry, magnifique favori, hein, vous le reconnaissez en haut, et Jean Jaurès, tout le monde le reconnaît également, donc deux figures tout à fait emblématiques du début de la Troisième République avant la guerre de 14, puisque ce pauvre Jean Jaurès, vous savez, a été assassiné la veille du déclenchement de la guerre. Donc c'est Robert Chantin qui nous parlera de ces deux personnages. Alors c'est bien de parler des personnages, mais il faut savoir un petit peu ce qui se passe en arrière-plan. Et donc on va avoir deux conférences sur... l'arrière-plan. Évidemment, l'arrière-plan social, on dit toujours les grandes grèves, les choses comme ça. Il faut savoir que on dit, de 1873, on va dire pratiquement, aux années 1910, on dit que c'est une crise. C'était pas une crise, mais c'était vraiment un plafonnement de la production industrielle pour des tas de raisons qui ont fait qu'il y a eu des crises sociales très importantes. Voilà. Puisqu'on parle toujours du krach de 1929, il y a eu des krachs, il y en a eu beaucoup d'autres avant, et en particulier, il y en a eu un en 1873 qui était presque de la même ampleur que celui de 1929. Mais celui-là, on l'a oublié, parce que maintenant, notre mémoire longue n'existe plus, et à l'UTB, on tient à faire de l'histoire. On aime l'histoire, j'aime l'histoire, vous avez compris depuis longtemps, et donc... Et on parlera de la Belle Époque, pas seulement en termes de mode, mais en termes de qu'est-ce que ça représente. Pourquoi on a appelé cette période la Belle Époque? Tout simplement un petit peu par contraste par rapport à la période précédente qui était un petit peu, coup-ci, coup-ça, on va dire. Et il y a eu une impression un peu subjective d'une amélioration qui s'est cassée brutalement avec la guerre 14. guerre 14. Alors la guerre 14, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs dans les saisons précédentes, on a essayé de faire le moins d'événementiel possible. Toutes les périodes guerrières, c'est extrêmement compliqué et ça devient vite lassant de faire des exposés sur des mouvements de troupes, des choses comme ça. Donc il faut l'aborder d'une façon un petit peu plus sociologique et un petit peu plus politique. Et donc j'ai choisi comme thématique d'expliquer l'entrée des Américains dans la guerre 14 en deux séances. Donc pourquoi? Vous savez que les Américains sont traditionnellement isolationnistes, ils l'ont toujours été, et ils sont devenus interventionnistes pour des raisons qui tenaient au contexte du moment et qui vous seront expliquées dans ces conférences. Alors là, vous voyez la séance du Congrès pendant laquelle, c'était en avril 1917, le Congrès a donné l'autorisation de déclaration de guerre des États-Unis à l'Allemagne. Et ici, vous avez le généralissime américain, c'est le général Pershing. Et donc, on ira jusqu'au traité de Versailles et le rôle qu'ils ont joué, vous savez, les 14 points de Wilson, le traité de Versailles, tout ce qui tourne autour du traité de Versailles. Ça a été traité il y a une dizaine d'années par M. Lyonnais dans l'histoire des États-Unis. Vous avez tous oublié, donc on va faire une révision sur le traité de Versailles. Qui n'est pas inutile, surtout dans la période actuelle, en fonction des événements que l'on voit dans le monde. Et Dieu sait si c'est compliqué. Et alors là, enfin, on va attaquer le gros morceau, c'est le cas de le dire, au sens propre et au sens figuré. Donc, après discussion, j'ai demandé ça à Monique Roux, qui est une de nos conférencières de référence en histoire. Et de Gaulle, on le connaît mal, disons, dans sa période depuis le 18 juin 40, on va dire, pour faire court, d'une façon très schématique. Et en fait, on ne sait pas trop ce qu'il a fait avant. Et les vies de Gaulle entre sa naissance et le 18 juin 1940, il s'est passé 50 ans. Et il s'est passé des choses dans la vie de Gaulle. Et donc, c'est un des objectifs de cette conférence, c'est de rappeler tout ça. De Gaulle n'est pas sorti du tuyau par l'opération du Saint-Esprit. D'abord, il pouvait sortir que du tuyau, puisqu'il dépassait quand même d'une tête de tous les politiciens de l'époque. Donc, c'est comme ça que Churchill l'a repéré. Hein, voilà. Vous voyez, dans le gouvernement... Bon, donc, on parlera de Gaulle. Alors, dans l'absolu, on s'arrêtera à la fin de la guerre, c'est-à-dire au moment où il démissionne, en janvier 1946. De Gaulle, après, c'est un autre De Gaulle. Et ça, vous le connaissez mieux. Et peut-être que dans les années qui viennent, on en parlera. Alors, un thème en or, De Gaulle et Churchill. J'ai demandé ça à Alain Kersaudy, tout simplement parce que le livre qui s'appelle « De Gaulle et Churchill », c'est M. Alain Kersaudy qui l'a écrit, qui est un universitaire qui a travaillé à Oxford. Il est déjà venu depuis 2 ans nous parler de Churchill et de MacArthur. Hein, et c'est lui le mieux placé pour parler de cette chose-là, puisque ça a été sa thèse, enfin pas sa thèse, mais sa post-thèse de ses études à Oxford. Dans les vedettes du XXe siècle, on en a choisi 2 autres, Roosevelt, le président américain. Bon, vous écouterez la conférence, et les relations compliquées également avec De Gaulle, entre autres, et Mustafa Kemal. Alors, on a choisi celui-là pour des raisons évidentes, vous voyez ce qui se passe en ce moment en Turquie. Donc, Mustafa Kemal, c'est donc le fondateur de la République turque, en 1923, et dont les héritiers actuels remettent un petit peu en question les dogmes. Donc c'est intéressant de réviser un petit peu tout ça. Et en voilà un autre incontournable, c'est Lénine. Et donc là, on a trouvé quelqu'un à la Sorbonne qui a accepté de venir nous faire cette conférence. Bon, venez l'écouter parce que Lénine aussi est un homme méconnu. Alors, on a choisi volontairement de faire une monographie sur le personnage beaucoup plus que de raconter la révolution d'octobre. Pourquoi on le fait cette année? Alors, je refais encore une révision, hein. 2017, c'est un siècle après 1917. 1917, c'est la révolution d'octobre, qui est en novembre, en fait. Vous savez qu'il y a un décalage de calendrier avec la Russie. Et donc, on a plutôt choisi de parler de l'homme qui a, à part sa participation très modeste aux événements, qui était émigré permanent, hein. Et donc, on verra tout le substrat et tout le contexte de cette période. Un sujet, on va dire, inhabituel. On ne parle jamais de la Suisse, sauf pour parler des coffres-forts. Et d'ailleurs, vous voyez, dans cette petite caricature, il y a une évocation subliminale des coffres-forts suisses. Et donc, nous avons trouvé un intervenant suisse, évidemment, qui acceptait de nous parler de l'attitude de la Suisse, neutre ô combien, pendant les deux guerres mondiales. Et donc, vous comprenez bien qu'il y a eu obligatoirement des compromissions qui intéressaient aussi bien les alliés, ce qu'on appelle les alliés, que les forces centrales de l'Europe centrale. Évidemment, je ne pouvais pas éviter ça, c'est à la mode. Quand j'ai fait le PowerPoint, on n'avait pas encore le résultat de l'élection présidentielle, hein. Donc, voilà. Donc, j'ai mis les vedettes. Alors, bien sûr, vous reconnaissez cette dame, hein. Ce monsieur, vous le reconnaissez. Celui-là, vous le connaissez. Monsieur Farage, l'indépendantiste anglais, hein. Ah, ceux-là, est-ce que vous les reconnaissez? Perron, voilà, c'est bien. Eva Perron. Et donc, c'est un peu eux qui ont inventé le populisme moderne, si vous voulez. Et ça, encore une fois, on a un petit peu oublié. Donc, l'histoire des populistes ne se concentrera pas sur le XXe siècle, mais essaiera de voir d'où vient ce concept de populisme. Hein. Et donc, évidemment, on a demandé ça à Monsieur Bruno Benoît. Monsieur Bruno Benoît, le grand batteur d'estrade qui nous a fait deux conférences sur l'Europe cette année, qui était absolument époustouflante. Hein. Donc, je rappelle, ancien enseignant à Sciences Po à Lyon, hein, qui est vraiment brillantissime. On a la chance de l'avoir, on la remercie. Alors là, je saute du coq à l'âne, hein, maintenant, histoire industrielle. Donc, qui ne connaît pas l'Académie François Bourdon au Creusot? Vous avez le droit de lever le doigt, il n'y a pas de honte à ça. L'Académie François Bourdon au Creusot, c'est une association qui a été créée au moment de la déconfiture de Creusot-Loire en 1986. Et c'est d'anciens cadres de l'usine, Schneider, qui ont obtenu des repreneurs la possibilité de gérer finalement le fonds historique et documentaire de l'histoire des Schneider. Et donc, ça s'est appelé l'Académie François Bourdon, qui est toujours vivante et qui marche très bien. Et donc, on va voir un exposé sur cette académie et ensuite une visite. Et ça sera fait par le directeur opérationnel de cette structure qui s'appelle Ivan Caraba. Voilà. Et on verra, on fera une visite des archives. Récemment, donc, la partie musée a complètement été relookée. Ça s'appelle le pavillon de l'industrie, qui est à côté du château de la Verrerie au Creusot. Si vous ne voulez pas aller, ben, on ira ensemble, parce que ça vaut le coup de le faire en visite accompagnée, si vous voulez. Hein. Le sel et la vie. Donc, on a demandé, ça c'est un thème un petit peu bateau, qu'on n'a jamais fait, hein. Et donc, on va bien sûr parler, vous reconnaissez les deux images, Arques-Nant et l'installation de Salins, hein, si vous l'avez déjà visité. Et donc, on fera des visites et à Arques-Nant et aux mines de sel de Salins. Alors, vous savez bien que j'aime faire des conférences d'histoire des sciences, hein, et donc je vais vous parler des femmes scientifiques au 19e et 20e. Alors, pas de toutes, hein, bien sûr, puisqu'il y en a quand même beaucoup. J'ai pris quelques-unes et quelques-unes qui sont beaucoup moins connues. Alors, je pense que tout le monde reconnaît ce visage. Hein. Qui est cette dame? Marie Curie, bien sûr. Mais les trois autres, vous ne les connaissez pas. Et pourtant, c'est des noms que... enfin, au moins deux. Cette dame-là, est-ce que vous l'avez déjà vue dans un tableau? Ah, vous n'avez pas le pointeur. Ah. Bon, je vais tricher, là. Hein. Voilà. Cette dame-là, est-ce que vous l'avez déjà vue? C'est Madame Lavoisier. Dans le fameux tableau où on voit Lavoisier, c'est elle qui se tient à sa droite. Et contrairement à ce qu'on pense, elle était pour 50% dans les résultats de ses travaux, Madame Lavoisier. Elle parlait quatre langues et c'est elle qui a gravé tous ses ouvrages sur les traités de chimie. Ici, c'est Sophie Germain, une mathématicienne française... mathématicienne française à l'époque de la Révolution, et celle-ci, c'est Madame Ada Lovelace. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Ada Lovelace? C'est la fille de Lord Byron, qui est la première mathématicienne qui a inventé la notion de programme informatique, avant qu'il y ait de l'informatique, en 1830. Et Marie Curie, mais je vous parlerai d'autres, puisque... alors, je repasse en mode... Voilà, visualisation, voilà. Alors, Marie Curie mérite, on en a parlé à plusieurs reprises dans des conférences les années passées, où on a parlé de ses travaux. En particulier, le professeur Jacques Fauss a raconté comment elle a trouvé la radioactivité, le radium et le polonium. Je rappelle que c'est la seule femme qui ait eu deux prix Nobel. Hein. Donc Marie Curie, c'est une sainte laïque, on va dire. Hein. Elle a toutes les qualités. Elle a survécu à toutes les épreuves, la mort de son mari, la calomnie publique avec ses relations avec Paul Langevin, mais son rôle dans la guerre 14 avec les petites Curie, l'Institut du Radium et tout ça, ça va vous être expliqué par Jean-Marie Vigoureux, notre professeur de physique de l'Université de Besançon. Et dans les... tous les grands scientifiques de l'époque ne l'appelaient pas Marie Curie ou ne l'appelaient pas. Tout le monde l'appelait Madame Curie. Tout le monde l'appelait Madame Curie. On disait Einstein et Madame Curie. On ne disait pas Einstein et Curie. Hein? Donc elle était portée au pinacle par tous ses collègues, à juste titre. Ah, elle est célèbre. Un qui l'est beaucoup moins, c'est celui-là. Henri Navier. Qui a déjà entendu parler d'Henri Navier? Personne, ben donc vous viendrez à la conférence. Monsieur Henri Navier, c'est le scientifique français qui a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la mécanique des fluides, c'est-à-dire la mathématique qui permet de comprendre comment les fluides s'écoulent. En particulier l'écoulement, entre autres, autour des ailes d'avion. Alors, il n'y avait pas d'avion à cette époque-là, mais les équations de Navier, c'est les équations mathématiques qui permettent de faire ce qu'on appelle la mécanique des fluides. Alors pourquoi on parle de Navier? Ben, une fois de plus, c'est un régional de l'étape, parce que son beau-père, c'est un nom qu'on connaît, il s'appelait Émilien Gautet. Et Émilien Gautet, il a fait des canaux, le canal du centre. Et dans les canaux, il y a besoin de comprendre les écoulements des fluides de l'eau. Et donc l'origine de la carrière scientifique, il n'y a pas que celle-là, c'est les travaux déjà de son beau-père, Émilien Gautet. Navier, c'est un polytechnicien. Hein. Et donc c'est Gilles Bertrand, un ancien président de l'Université de Bourgogne, qui nous en parlera. Monsieur Guichard de Bibracte, fera peut-être, parce qu'il nous a laissé entendre à son dernier passage que peut-être il allait changer de poste. Il a passé 25 ans à Bibracte. J'ai l'impression qu'il est un petit peu saturé. Mais de toute façon, on aurait quelqu'un de Bibrac, c'est le sujet qu'il nous a donné, mais ça peut changer. De toute façon, tous les ans, on a quelqu'un qui vient de Bibrac nous faire une conférence à thématique archéologie. Alors, histoire, les croisades vues par les musulmans. Donc, c'est M. Djebar, que vous connaissez tous également, qui nous a proposé ça, puisqu'il nous avait fait une conférence époustouflante il y a 2 ans sur l'expédition d'Égypte vue par les Égyptiens, l'expédition de Bonaparte vue par les Égyptiens. Et il a fait une conférence extraordinaire parce qu'il a utilisé un ouvrage en arabe qui n'a jamais été traduit a fortiori en français, qui raconte ce qui s'est passé pendant la campagne de Bonaparte vu par une personne haut placée, si vous voulez, au Caire. Alors donc les croisades vues par les musulmans, c'est intéressant. Si vous avez eu l'occasion d'aller, maintenant c'est un peu plus difficile, dans les pays du Moyen-Orient, dans tous les guides vous en parlent d'une façon ou d'une autre de cette thématique-là, en disant oui, vous venez les croisés. Je ne parle pas des djihadistes, hein, je parle des gens, on va dire, normaux. Et donc on nous replace toujours un petit peu dans le contexte en disant mais oui, mais essayez de vous mettre dans la situation, c'est difficile. Au Xe siècle ou XIe siècle, de dire on voit arriver tous ces gars-là, comment on les perçoit. Voilà. Donc je pense que ce sera très intéressant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc Jean Dietz, le pasteur, il est au Creusot, hein, Dietz, va nous parler donc de Martin Luther. Alors, M. Lyonnais réapparaît ici. Alors, je rappelle, M. Lyonnais, c'est un géographe qui nous a fait pratiquement des conférences d'histoire. Donc, il a envie de faire des conférences de géographie. Et donc, il va nous parler de l'organisation territoriale du Royaume-Uni. On a choisi ce thème-là parce qu'il nous a fait plusieurs propositions, parce que, vis-à-vis du Brexit, c'est pas inintéressant, cette thématique-là. Pour ceux qui sont venus cette année sur la conférence de M. Alliot sur la révolution industrielle, il nous a bien expliqué les raisons, j'allais dire, très profondes, du fait que la révolution industrielle s'est faite en Angleterre plutôt que dans les autres pays européens. Voilà. En littérature, eh bien, on va essayer de faire un voyage dans le temps pendant tout le 19e siècle et de voir comment les œuvres littéraires ont retraduit les évolutions sociologiques de la société. Bon, alors, quand on passe à Balzac ou à Flaubert, c'est l'évidence même, mais plutôt que d'analyser les œuvres, on fera une œuvre de sociologie à travers la littérature. C'est ça l'exercice que Stéphane Le Quiddick nous a proposé de faire. Alors, parmi ceux-là, évidemment, il y en a un qui manque et qui est incontestable. Alors, on va quand même le traiter. C'est celui-là, évidemment. Hein, Émile Zola, et qui correspond tout à fait à la période que j'ai signalée tout à fait au début, 1873-1914. Alors, voilà une conférence qui nous a été proposée par, et ça c'est, vous verrez qu'il y a un autre débat qui viendra autour de ces questions-là, comment fonctionne la recherche scientifique? Parce que ça, tout le monde en parle, mais personne ne sait de quoi il s'agit. Hein. Et derrière tout ça, il y a le problème de l'éthique du chercheur. Et ça, on se pose jamais la question, c'est-à-dire, on passe de l'attitude de dire moi je veux des chercheurs qui trouvent, hein, c'est ce que racontait De Gaulle pour faire des raccourcis rapides, et le chercheur quand il dit moi je cherche mais je sais pas ce que je cherche, donc il y a toujours un équilibre subtil entre les deux attitudes, si vous voulez, qui fait que c'est une problématique un petit peu compliquée. Et en particulier, comme sa spécialité, c'est l'immunologie, ce sont des sujets qui sont très sensibles du point de vue éthique Et donc c'est intéressant d'avoir le point de vue de l'intérieur d'un chercheur. Il est, en plus, il est prêtre, ce chercheur, donc c'est intéressant d'avoir une sensibilité comme ça. Je n'ai pas mis en route l'air conditionné, hein, je m'excuse, mais voilà. Notre sociologue, M. Mouni, va nous parler d'Edgar Morin. Et nous avons trouvé un sociologue qui va nous parler de la violence de masse. C'est quoi la violence de masse? C'est la justification des guerres, finalement. Et des guerres, de tout ce qui va avec, et de pas très sympathique, si vous voulez. Donc, c'est pas inintéressant d'écouter ça après quelques épisodes sur la guerre 14. Nous avons réinvité M. Patrick Bonin, il nous avait fait un exposé très intéressant sur la psychologie expérimentale, et donc qui va nous parler un petit peu de linguistique. La philosophie, on continue l'histoire de la philosophie, 18e siècle, les empiristes, Condillac, Lametri et Hume, le philosophe anglais. En droit, eh bien, j'ai choisi deux conférences. Une conférence, ben, évidemment, qui est d'actualité. Qu'est-ce que c'est que le droit d'asile? Qu'est-ce que c'est que le droit d'asile? Tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. Hein. Et donc, il y a un socle juridique qui existe depuis le début du XXe siècle, qui est compliqué à manipuler. J'ai trouvé cette petite image rigolote. Et donc, j'ai obtenu d'une sénatrice, vous la connaissez au moins par le journal, Marie Mercier, qui est maire de Châtenois-le-Royal. Elle va venir nous faire un exposé sur le rôle et le fonctionnement du Sénat. Et ensuite, si vous êtes nombreux à venir et si vous êtes sages, nous ferons une visite au Sénat. Alors celui-là, j'avais déjà mis une fois, on va le remettre une deuxième fois. Même s'il fait l'actualité tous les jours, hein, les États-Unis, un an avec Trump. Il suffit de faire des copies de l'actualité tous les jours, puis d'empiler tout ça. Et donc l'exercice, M. Véron a accepté de bien vouloir le faire, pour dire où est-ce que ce personnage quand même singulier va nous emmener. Monsieur Michaud va nous parler de l'Afrique centrale. Je rappelle que vous savez qu'il y a des guerres civiles un petit peu partout en Afrique, et ça ne fait que se développer. Derrière ces guerres, il y a la lutte pour l'accès aux ressources minières et minérales, évidemment. Et les diamants, les minéraux, les choses comme ça. Et il faut connaître tout ça. On parle souvent du pétrole ou du gaz, mais ça n'est que la surface des choses. Tout existe, si vous voulez. L'Europe de la défense, le serpent de mer, hein, mais je pense que ça va revenir avec notre nouveau président a dit que c'est un sujet qu'il allait remettre un petit peu sur la table pour les discussions. Et je rappelle Monsieur Alain Coldefy, qui est un amiral à la retraite, qui nous fait d'excellentes conférences et qui nous fait le plaisir de nous visiter une fois par an. Donc on va lui demander ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il en connaît. En économie, alors on a découvert il y a 3 ans un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Donnet qui vient de Besançon et qui est absolument génial, c'est-à-dire l'économie pour les nuls. C'est-à-dire il est très pédagogue et il pose des questions un petit peu décapantes pour faire réagir un petit peu le public. Et donc c'est pas du tout doctorant, hein, c'est très vivant. Donc je vous encourage vivement à venir l'écouter. Alors, deux tartes à la crème des magazines du moment, mais je crois qu'il faut en parler puisque ce sont des sujets à la mode. L'économie numérique, hein, dont on nous parle beaucoup sans jamais nous expliquer de quoi il s'agit, hein, comme toujours. Donc on aura un exposé sur cette chose-là. Monsieur Landry Léonard, c'est le vice-président du Grand Chalon qui s'occupe de Ecosea, l'usine de traitement de méthanisation qui est à Chagny, là. Et accessoirement, il est prof d'économie au lycée de Tournu. Donc il a accepté de nous donner cette conférence. Et puis, j'ai un ami là qui est consultant qui va nous faire un exposé sur l'apprentissage. Alors aussi, tarte à la crème dont tout le monde parle, mais personne ne sait ce que c'est. Et donc, on va nous expliquer ça par le détail. D'une façon générale, les sujets de société, on a vocation, enfin, c'est... c'est ce que l'UTB propose, de faire des actions pédagogiques. Dans les médias, on n'a pas de pédagogie. On est à la surface des choses et on ne voit que des choses tout à fait... Alors là, on essaye d'approfondir un petit peu chacun des sujets. Alors, j'ai remis ce thème-là sur Fukushima. Cette conférence devait avoir lieu l'an dernier. Et monsieur Métivier, il avait des problèmes de santé, il était obligé d'annuler. Donc je l'ai remise, il a dit si ça va mieux, je reviendrai sans problème. Alors là, j'ai remis ce sujet-là parce qu'on a eu la chance, monsieur Patrice Debré, c'est la famille dont vous connaissez bien le nom, hein, et qui est professeur à la Salpêtrière, et qui a fait beaucoup d'ouvrages grand public, en particulier un ouvrage qui s'appelle « L'homme microbiotique ». On a eu une conférence sur le microbiote cette année, qui était très bien d'ailleurs. Et donc, qui va venir de Paris, spécialement, pour nous parler de ces deux sujets. Vie et mort des épidémies, pourquoi les épidémies s'arrêtent? On ne sait pas pourquoi les épidémies s'arrêtent. Les épidémies démarrent, se développent, et au bout d'un moment, elle s'arrête. En particulier, le fameux virus Zika, qui était explosif l'année dernière, est en train complètement de s'arrêter au Brésil. On ne comprend pas pourquoi. Et donc, il y a des théories qui permettent d'essayer d'expliquer ça. Donc, parce qu'au niveau individuel, il y a effectivement des phénomènes d'immunologie, mais au niveau statistique, au niveau des populations, on ne comprend pas pourquoi une épidémie s'arrête. Sauf quand tous les gens sont morts. Ça arrête l'épidémie, ça c'est sûr. Mais en général, ça se passe jamais comme ça. Mais voilà. Et alors là, c'est l'immunothérapie. Alors, vous savez que c'est le sujet également à la mode. Donc l'idée aujourd'hui, il y a autant de cancers que d'individus. On essaye de trouver des moyens spécifiques et presque individuels pour, renforcer les défenses immunologiques, puisqu'on dit, plutôt que de faire des chimiothérapies avec des agents extérieurs, essayons de susciter le système immunitaire qui a vocation naturellement à éliminer les cellules cancéreuses. Et si elles se développent, c'est tout simplement parce que ce système est affaibli ou est perdu au niveau de la reconnaissance des cellules cancéreuses. Donc il y a beaucoup de recherches depuis une dizaine d'années qui vont vers l'immunothérapie. Alors ça marche d'une façon spectaculaire dans un certain nombre de cas. La difficulté, c'est que ça coûte très cher puisqu'il faut une thérapie spécifique pour chaque individu. Et donc ça, c'est pas facile à faire. Et puis surtout, ça coûte cher. Alors, ce qui a un peu changé la donne, c'est qu'on a la capacité maintenant de faire des analyses du génome qui coûtent plus rien, à ce qui n'était pas le cas il y a seulement 10 ans. Donc, ça vous sera expliqué. Alors, j'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui accepte de faire cette conférence. C'est quelqu'un de l'INSERM à Dijon qui a bien voulu accepter ce défi. Le docteur Pio, qui a un passé de médecine militaire, va nous parler de la médecine coloniale française. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que ça va vous permettre de mettre en perspective les exposés que nous a fait M. Schwartz de l'Institut Pasteur sur les développements. Je rappelle que c'est quand même les maladies tropicales qui ont été la locomotive de la deuxième génération des pasteuriens. Hein. Donc les hyacinthes, les Menchikov et les choses comme ça, qui ont été Émile Roux, qui ont été les élèves de Pasteur. Comment ? Ah, les cardiologues, ils sont épuisés. Voilà. Ils étaient bien les cardiologues, hein. Non, mais on a beaucoup de mal déjà les avoir eu 2 ans de suite, c'est extrêmement difficile. Et, d'une façon générale, les médecins, vous avez déjà remarqué, ils sont bien occupés. Et il faut obtenir qu'ils acceptent de venir faire des conférences. Non seulement il faut faire la conférence, mais il faut la préparer. Donc ça demande du temps. Donc notre astronome va se payer. Là, c'est un grand défi. En 4 séances, c'est l'évolution des idées sur la gravitation. Alors, les deux premiers, c'est pas très difficile, 1 et 2. Le 3, ça commence à devenir dur, et le 4, ça devient très dur, monsieur. Voilà. Mais il est très pédagogue, donc il va vous expliquer tout ça, pourquoi. Évidemment, on va pas vous faire un cours théorique sur la relativité générale, c'est pas possible, mais essayez de vous faire toucher du doigt, surtout par quel type de questionnement. Einstein, il est passionnant pour ça, parce que il faisait ce qu'on appelait des expériences de pensée, c'est-à-dire par quel processus de mental on se pose des questions qui font qu'on essaye de trouver un certain nombre de solutions. Et alors là, on va parler, donc le professeur Jacques Fosse va nous parler de la découverte de la fission nucléaire. Fission nucléaire, vous savez, c'est le processus qui est à l'œuvre dans les centrales nucléaires, mais également dans la bombe atomique. Alors, il se trouve que cette découverte de la fission nucléaire, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'histoire, ont été faites en 1939. C'est le hasard de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il y a une bombe. Hélas. Voilà. Et on a quelqu'un qui viendra nous parler des nanoparticules. Alors là, je peux pas. Alors je vais quand même vous montrer. Je vais vous faire une interro. Parce que je vois plus les. Je sais pas comment on met le. Ah, celui-là, vous le connaissez. Alors, je vous dis les noms. Hein. Otto Hahn. Voilà, c'est un Allemand. Hein. C'est lui qui a eu le prix Nobel pour la découverte. Mais ceux qui ont largement participé, ce sont les deux autres. Lise Meitner, qui était son assistant, enfin sa collègue, chimiste, physicienne. Lui, il était chimiste, elle était physicienne. Et Otto Frisch, c'est le neveu de cette dame-là. Et on a beaucoup critiqué le fait qu'il ait eu seul le prix Nobel en 1944, alors qu'elle n'a pas été associée à ce prix Nobel, alors qu'en fait, c'est elle qui a transformé l'essai et qui a compris le phénomène de fission. Donc, il vous racontera ça par le détail. Alors, ensuite, alors, on va vous parler d'une chose dont on ne parle jamais dans les journaux, c'est à mon grand dame, c'est cette histoire d'énergie renouvelable. Vous savez, les énergies renouvelables, c'est les éoliennes et le solaire. Alors, le solaire, je rappelle qu'il y a des courants quand il y a du soleil, donc la nuit, il n'y a pas d'énergie solaire. Et quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie éolienne. Et donc, quand on a besoin d'énergie, eh bien, il faut qu'il y ait d'autres sources qui compensent ce manque. Alors, il faut mélanger les deux, c'est ce qui est c'est le cas actuellement, donc sur un réseau qui est distribué, et toutes les études jusqu'à présent montrent que si on a une proportion d'énergie qu'on appelle intermittente, c'est-à-dire dont on ne peut pas prévoir le niveau, eh bien, on n'arrive plus à réguler le système, c'est-à-dire on fait sauter les plombs. Hein. Et donc, j'ai déjà écouté sa conférence, elle est très bien, elle est très compréhensible par le commun des mortels. Et donc, on nous expliquera en particulier comment on fait pour réguler tout le réseau. Hein. Et après, il parlera de la difficulté d'intégrer l'éolien dans les réseaux électriques distribués. Alors, voilà un cas, monsieur Schulz, ça fait 2 ans qu'il vient nous voir, il est enseignant à Hilaire de Chardonnay, c'est un jeune professeur, et il nous a proposé les grandes extinctions animales savez, au cours de la vie, de l'histoire de la vie sur Terre, on dit qu'il y a eu 5 extinctions, on dit qu'il y en a une 6e qui est en train de commencer. Mais bon, donc il va nous expliquer tout ça. Et on retrouve une 2e conférence sur la thématique de la couleur. Alors, messieurs, madame Bardez et monsieur Valeur, qui étaient 2 collègues professeurs au CNAM, nous ont fait une conférence un petit peu sur la physiologie de la lumière l'an dernier, qui était très intéressante. Et ils vont refaire ça en se déplaçant un petit peu plus sur le sens sensible de la perception de la couleur et le sens artistique. Donc il fera le complément par rapport à la conférence d'Anne Xpe dont je vous ai parlé tout à fait au début. Comme tous les ans, il y a une fête de la science. Alors à nouveau, une tarte à la crème, on dit un marronnier dans la presse, hein. Vers une agriculture sans produits phytosanitaires, utopie ou réalité. Je rappelle qu'on vient de passer une loi qui interdit maintenant dans les mairies, dans ceux qui entretiennent vos pelouses, des espaces verts chalonnais et dans toutes les villes, ont interdiction formelle de n'utiliser aucun produit phytosanitaire. Donc les mauvaises herbes vont proliférer, ou alors il va falloir utiliser de l'huile de coude. Hein. Voilà. Et un autre sujet, le biomimétisme. C'est quoi le biomimétisme? C'est d'utiliser des structures qui existent dans la vie. Comme exemple, c'est par exemple des peaux, vous savez, les peaux des requins ou les peaux de certains poissons, d'animaux marins qui ont des petites alvéoles particulières qui facilitent l'écoulement de l'eau. Donc on essaye de reproduire un petit peu ces formes-là sur des choses artificielles et créées par l'homme pour trouver les mêmes propriétés. Le biomimétisme. Et alors là, vous allez avoir droit à la bombe. Donc je vais vous parler de l'histoire de la bombe. Pourquoi il y a eu une bombe qui s'appelle le projet Manhattan, donc vous le savez tous, hein, qui a commencé en 1942, on va dire, et qui en 1945 s'est traduit par 2 bombes sur le Japon. Et donc l'histoire mérite d'être racontée parce que vous allez venir m'écouter, donc vous saurez pourquoi. sinon je fais la conférence. Hein. En fait, c'est, je dirais, hasard et nécessité. C'est-à-dire que même si les Américains ne l'avaient pas fait, d'autres l'auraient fait à peu près à la même période, même indépendamment de tout contexte de guerre. Donc c'était une pente inéluctable. Donc les circonstances ont fait que ce sont les Américains qui l'ont faite, qui l'ont utilisée. Et il se trouve qu'en recherchant de la documentation sur ce thème-là, qui est très abondante sur Internet, j'ai trouvé 2 documents. Alors vous savez que le directeur scientifique, c'était Oppenheimer, hein, vous avez déjà entendu ce nom-là, c'est le gars qu'on voit là avec ce chapeau, là. Hein, et il a fait un discours, donc les bombes, c'est août 1945, en novembre 1945, il a fait un discours devant tous les scientifiques de Los Alamos, l'endroit où ça avait été développé, et c'est un discours qui fait 15 pages, et qui est la synthèse de toute l'éthique de la recherche scientifique, qui est absolument extraordinaire, premièrement. Et j'ai un deuxième texte, alors là, qui est plus public, c'est un texte qui date de 1947, qui a été écrit par Stimson. Stimson, c'était le secrétaire à la guerre du temps de Roosevelt, et donc qui a participé à la décision de lancer la bombe. Comme il y avait beaucoup de polémiques sur le fait qu'on ait lancé la bombe sur le Japon, c'est facile de le dire une fois qu'on a lancé, donc pour essayer d'éteindre un petit peu le feu, on ne l'a jamais éteint bien sûr, il a écrit un article qui fait aussi une quinzaine de pages qui explique tout le processus qui a conduit à la décision de Truman, in fine, de lancer ces 2 bombes. Et donc, si ça marche... a priori, pour le moment, ça devrait marcher. Donc, 3 jours après que j'ai fait la conférence sur l'histoire de la bombe, on fera une conférence débat avec l'amiral Koldofy, qui lui représente la sensibilité militaire, si vous voulez, et qui connaît bien les problèmes de dissuasion nucléaire, puisqu'il en a fait partie. Hein. Alors bon, il restera dans les limites de l'épure. C'est pas l'objet de faire des débats sur la dissuasion nucléaire dans une conférence de l'UTB. Mais également Jacques Fauss, qui représentera l'histoire de la découverte scientifique. Je vous dis, le hasard a fait que les découvertes de la fission, ça s'est passé juste au moment du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, on va sortir de la bombe, hein, c'est pas très rigolo, mais c'est toujours intéressant de savoir. On n'en est pas sorti, on est toujours dans ce type de débat, hein, 70 ans après, 72 ans après. Hein, ça fait 72 ans que les bombes ont été lancées sur le Japon. Un de nos adhérents va nous parler de ce qu'on appelle le flot de glace, c'est-à-dire la façon de faire du verre plat sur un bain d'étain en fusion. Personne ne sait ça, sauf les spécialistes. Donc il va nous expliquer tout ça par le détail, et on ira voir une usine qui fait ça. Il y a des usines en France qui font ce type de verre. Toutes les verres à vide qu'on a maintenant, les glaces, sont faites par ce procédé-là depuis les années 70. On termine un petit peu le cycle avec le cinéma. Cette conférence était prévue l'année dernière. Monsieur Genet a des problèmes de santé lui aussi. Qui n'en a pas, hélas. Et donc, il a dit, si je suis en forme, je viens la faire, donc Chaplin. Et on a trouvé une autre enseignante qui vient de Dijon, hein, Véronique Assadas, qui fait les conférences à l'UTB à Dijon et qui nous a proposé ce sujet-là, le festin au cinéma. Et j'ai mis la photo. Alors là, c'est moins bouché que la nature morte que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le festin de Babette qui est passé à la télé il n'y a pas très longtemps, qui est un film absolument magnifique. Hein. La musique. Alors, deux compositrices. Alors, c'est un peu la réplique, si vous voulez, des scientifiques. On a essayé de mettre en vedette, parce que, également dans les professions artistiques, vous savez que toutes les femmes étaient un petit peu bridées, hein, même au 19e siècle. Donc, Fanny Ansel Mendelssohn et Louise Farenc, et puis on va parler de Maurice Ravel et la danse, évidemment, on parlera et on écoutera sûrement le boléro de Ravel, puisque le boléro, je rappelle, était une musique de ballet, hein, initialement. Et puis, mon ami, on parlera aussi de Gershwin. Gershwin, pourquoi ? Parce que c'est la période. Hein. Gershwin qui est inclassable, comme vous le savez. Hein. Donc c'est intéressant d'avoir un exposé là-dessus. Et mon ami François Teinturier va nous faire du chantre au chœur, évolution de la notation musicale au Moyen-Âge. Il nous en donne, pour ceux qui sont venus à l'exposition des instruments de musique au château de Pierre de Brest, c'était à l'automne, là. Il nous en a fait un petit avant-goût, là. Et donc, il va nous expliquer tout le processus qui a amené à créer la notation musicale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est passionnant, comme toujours. Quelques conférences. Alors, conférence-concert, je n'ai pas mis ce que c'était, puisque à l'instant où j'ai fait, on n'a pas encore choisi la thématique de la conférence-concert. Et on aura une conférence spécifique sur la 7e de Beethoven et sur la symphonie fantastique. Et on termine par le théâtre. Et donc, notre conférencière de théâtre nous parlera d'Armel Mouchkine et de Jean Villard. Jean Villard, évidemment, le Festival d'Avignon. Voilà donc. Alors, je passe vite là maintenant. Alors, je fais une petite pause ici. Donc voilà les conférences que nous vous proposons l'année prochaine. Nous avons ce qu'on appelle les activités complémentaires, c'est-à-dire les ateliers et divers. L'objectif de cette présentation n'est pas de rentrer dans le détail. Je vais passer au galop tout ça très vite. Et je rappelle qu'au mois de septembre, je refais cette même exposé à peu près au début septembre, à nouveau, parce que c'est le moment des inscriptions, et dans une deuxième phase, je fais une deuxième conférence qui ne parle avec les responsables des ateliers, qui ne parle que des ateliers. Donc, vous les voyez, je ne lis pas tout ce qu'il y a sur les planches, hein, vous les voyez comme ça, donc vous voyez beaucoup de langue, d'atelier. Je signale juste une nouvelle, vous voyez la dernière ligne ici, généalogie, donc ça marche pas? C'est dubitatif? Comment? Pour ça, tu veux plus faire? Bon. On verra, d'accord. Alors, ensuite, lecture, littérature, patrimoine, tous ces groupes-là continuent. Là, il n'y a rien de nouveau. Voilà les thèmes. Alors ça, je le développerai, enfin, les responsables d'atelier le développeront par le détail au mois de septembre. Je passe très vite. Je vais trop vite. Je vais un peu moins vite. Je vais lire les titres. Hein. Alors, je lis les titres. Groupe littérature. Littérature, c'est de l'Antiquité à aujourd'hui. Lecture, c'est le XXe siècle. Histoire de l'art, c'est Mathieu Pinette, en trois modules de cinq séances. Art plastique, c'est du dessin. Wikipédia, c'est apprendre à se servir et à composer, à modifier l'université, l'encyclopédie en ligne, Wikipédia. Groupe dictée, qui a beaucoup de succès avec Liliane Douté qui fait des dictées. Hein, mais... Atelier d'écriture, c'est composer des choses comme ça. On va changer un petit peu la formule l'année prochaine. On va essayer de faire des systèmes type feuilleton, c'est-à-dire, comme au XIXe siècle, de faire des 4 ou 5 pages et la suite au prochain numéro pour appâter un petit peu le client. Économie et géopolitique, ce sont des analyses d'ouvrages ou d'articles sur le thème indiqué. Éthique et société, la même chose. Donc le sujet qui a été choisi pour l'année prochaine, c'est démocratie et éthique, ou éthique et démocratie. Œnologie, donc à Givry, tout le monde sait ce que c'est. Généalogie, donc on verra s'il a envie de le faire, hein, puisqu'il a pas, il boude là. Ah, tu fatigues. Lundi de l'UTB, j'insiste sur le thème des lundis de l'UTB, c'est l'idée c'est de dire s'il y a des adhérents qui sont volontaires pour faire un exposé sur les sujets qui les intéressent. En général, ce sont soit des sujets qui sont liés à leur expérience professionnelle, le cas du verre plat, là, c'est le cas de Jean-Claude Coulon, soit des sujets qui correspondent à un hobby. Moi, je suis fanat de photos, je suis fanat de ceci, je suis fanat de cela, je vais vous expliquer comment ça se passe. Et on a eu des conférences très intéressantes sur cette chose-là. Donc chacun doit faire un petit effort sur lui-même pour proposer des exposés. Il n'y en a pas des milliers de dessins, hein, puisqu'il y en a au mieux un par mois, donc c'est vite saturé. Le café débat, alors il y a toujours beaucoup de débats, il y a moins de café, hein, parce que le payer une petite collation pour écouter parler des gens, machin, bon, on s'est assez vite rendu compte au cours des années que ça coinçait un petit peu. Donc la collation, elle est minimaliste, et par contre, on essaye de faire intervenir des gens d'extérieur. Je vous ai cité un cas autour de la bombe atomique, si vous voulez, le problème de la bombe atomique. La marche, tout le monde sait ce que c'est, donc là, régulière, deux fois par mois, hein. Et c'est une marche qui n'est pas marche ou crève, c'est une marche culturelle, évidemment. Et des voyages, donc des voyages, des longs voyages, des voyages courts, donc qui sont proposés en général. Le thème, il faut que ce soit que c'est un lien plus ou moins direct avec des thèmes qu'on a développés au cours des conférences, soit l'année qui vient de se passer, soit éventuellement un ou deux ans avant. Bon, donc on peut faire d'autres groupes, mais enfin, pour le moment, on est un petit peu saturé. Alors, je rappelle que l'avis de l'association, nous avons une taille telle que nous avons la chance, mais aussi la contrainte, d'avoir beaucoup d'outils de communication. Premier outil, c'est le bulletin mensuel. Donc tous les mois, on a une petite feuille que personne ne lit suffisamment attentivement, qu'on diffuse et que je le dis depuis la 200e fois. Bon. On l'envoie et par courrier et on le met sur le site internet, on l'envoie par mail. On fait les communications par la presse qui marchent de moins en moins bien, je ne citerai pas de nom, vous avez compris. Communication à l'ouverture des conférences, c'est pour ça que je m'oblige et puis je vous embête 5 minutes dans le début de toutes les conférences à vous mettre un peu en exergue les choses intéressantes. Tout est intéressant à l'UTB, mais il y a des choses qui sont plus intéressantes que d'autres. Donc je m'en exerce, soit des conférenciers qu'on n'a jamais entendus qui méritent d'être découverts, soit une thématique qui est tout à fait passionnante. Tout ce que je vous ai montré là, c'est pas sorti de mon cerveau fertile, ça a été fait dans un groupe où il y a certaines personnes qui sont dans la salle là, où on est 7, et chacun essaye d'apporter un petit peu sa contribution en disant on peut faire venir monsieur X, madame Y, etc. Et on essaye de coordonner tout ça et on le met en musique sur le site internet. Après, en clair, on travaille avec tout le monde, on est fait pour ça, donc ça se passe bien. Voilà notre site internet, ceux qui le connaissent. Et bon, alors je passe vite. La liste des conférences, etc. Toutes les informations qui sont sur les conférences. On peut le regarder sur son téléphone. Alors ça, c'est très intéressant, sur son téléphone. Vous avez tous des téléphones modernes, bien sûr. Des smartphones, comme on dit. Alors, justement, maintenant, on va mettre en place un système qui permet, en cas d'annulation, que l'alerte apparaisse tout de suite en haut de la page d'accueil, si vous voulez, pour que en rouge, on voit tout de suite qu'il se passe quelque chose. Alors, je vais faire un test, là. Parce que ici, il n'y a pas d'Internet, évidemment. Mais par la magie de la technique, je vais essayer d'avoir Internet grâce à mon téléphone mobile. Alors, je sors de ma présentation. Voilà. Et donc, sur mon... vous voyez, accueil. Et voilà, vous voyez, les modifications vont apparaître de cette façon-là. C'est-à-dire tout à fait en haut dans un bandeau rouge. C'est-à-dire la conférence de cet après-midi est annulée. La conférence de cet après-midi change de salle ou change d'heure, etc. Et ça, c'est une difficulté de communication avec les gens. Avec 700 personnes, il faut quand même essayer de prévenir les gens. C'est toujours désagréable quand les gens viennent à la dernière minute, ils voient la petite affiche, la conférence est annulée. Donc, on essaye de faire des efforts dans ce domaine-là. Donc, je rappelle, les conférences, ça marche comme ça. On va sur conférence. Et puis, toutes les conférences sont dans l'ordre chronologique. Et ensuite, on clique sur la conférence. Il y a un résumé. Il y a où se trouve la salle de conférence avec un plan. Il y a des documents. Là, il y en a pas. Enfin, là, je suis pas connecté. Il y a des documents qui sont ici, etc. Et il y a l'enregistrement audio. Je vais me connecter d'ailleurs, parce qu'on va faire les choses bien. Je prends n'importe quoi, voilà, et je vais dans Documents. Là, il n'y en a pas. Alors, là, par exemple, vous avez le son.
En fait, une approche de cet artiste désormais mondialement connu, mais qui fut...
Le conférencier a fait sa conférence, on a enregistré sa conférence, et vous pouvez la réécouter, comme en replay, sur Internet.
Jusqu'à ce okay. qu'un historien de l'art italien, Roberto Longhi, redécouvre et dépasse...
Ça, c'est une conférence qui a eu lieu au mois d'octobre de l'année dernière. Alors, voilà, et également, donc je vous montre quelque chose qu'on essaye de développer, c'est ce qu'on appelle l'adhérent distant. C'est-à-dire, actuellement, nous avons 25 personnes qui n'habitent pas à Chalon, qui habitent très loin, jusqu'à l'autre bout du monde, à Singapour, à Abu Dhabi. Donc, c'est des parents d'adhérents ici, qui leur payent leur cotisation, et ils peuvent écouter des conférences qui se font à l'UTB de Chalon. Parce que Abu Dhabi à 9h du soir, Abu Dhabi by night, c'est pas génial. Hein. Donc UTB by night, c'est mieux. Et donc vous pouvez, vous allez.
Lorsque l'on vient à Chalon, on a l'impression d'être dans une conférence internationale. C'est très impressionnant. Avec tout le matériel.
Vous voyez, on ne s'en dit pas à l'UTB.
12 ans, parfait. Merci beaucoup. Pour revenir à ce que la comparaison de Chalon et la Chine, dont parlait M. Fournier tout à l'heure, l'ancien Premier ministre du Luxembourg, puisque maintenant il a dévoilé le secret, je suis installé au Luxembourg. L'ancien Premier ministre luxembourgeois a dit un jour dans une conférence, dans un entretien télévisé avec son homologue chinois, lui a dit, écoutez, la Chine et le Luxembourg, nous représentons à nous deux 20% de la population de la planète, donc nous allons faire de grandes choses ensemble. Sachant que le Luxembourg, c'est 550 000 habitants. Depuis, il est très populaire en Chine, et je pense que M. Fournier va aussi être très populaire en Chine.
Bon. Donc, en fait, vous avez... Vous avez compris le principe, c'est première, cette fonctionnalité, elle est très importante. Nos collègues ne le font pas. Ça demande une astreinte importante de matériel et d'organisation, si vous voulez, mais on a capté la conférence. Vous avez loupé la conférence. Vous pouvez la voir en replay, c'est-à-dire la réécouter à la maison. Vous avez des gens qui sont loin, qui veulent... notre programme les intéresse. Je dis ça aussi pour le département. Hein. Vous voyez mon message. On peut proposer cette formule-là à des gens qui sont loin ou des gens qui ne peuvent pas venir. Des gens qui sont coincés, c'est-à-dire des gens qui sont handicapés et qui sont intéressés par l'UTB mais qui ne peuvent pas venir physiquement ici, si vous voulez. Alors, donc, on va faire un battage assez important à partir de cette année pour essayer de développer cette formule-là, si vous voulez. Donc, parlez-en autour de vous. Vous connaissez des gens qui disent « Ah ben, ton truc, il est génial, mais moi, j'habite à Lyon, moi, j'habite à Paray-le-Monial, moi, j'habite à ceci, moi, j'habite à cela. » Et donc, on peut avoir cette fonctionnalité-là. Donc, on a le son, mais on a aussi l'image, hein, puisqu'on peut, on peut regarder la puissance américaine, vous la regardez comme ça. Et vous avez la présentation de M. Véron. Vous pouvez regarder les planches qu'il a proposées. Voilà. Alors, je reviens sur ma présentation. La souffrance va se terminer, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc, le site Internet, très, très, très important, c'est un relais d'informations très important qui va au-delà simplement d'assister à nos conférences ici chez nous. C'est-à-dire, c'est un repiquage. Alors, si ça vous intéresse, évidemment, vous le prenez, puisqu'il faut une petite cotisation supplémentaire, mais surtout, vous en parlez à vos amis qui seraient intéressés et qui ne peuvent pas venir chez nous. Hein. Donc, je vais tout de suite à la conclusion. J'ai même tenu l'heure impeccablement. C'est juste 4 heures. Donc, la conclusion, je vous la propose ici. Hein. Nous proposons 114 conférences. Alors, ça varie un petit peu parce qu'on fait des petits changements au cours de l'année, mais enfin bon, l'un dans l'autre, c'est l'ordre de grandeur. Traditionnellement, on fait l'effort de renouveler à peu près un quart de nos conférenciers. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours les mêmes qui viennent repasser toujours les mêmes disques, bien qu'ils soient tous géniaux. Mais, disons, il y a un effet d'usure, si vous voulez. Et nous, on aime toujours bien revoir des nouvelles personnes, des nouveaux intervenants. Donc cette année, c'est 22 pour 77. La variété, puisque tout le monde peut trouver, évidemment, à part vraiment être un boulimique de l'UTB, on ne va pas assister à toutes les conférences, puisqu'il y a des conférences tous les jours, tous les jours, tous les jours, en période scolaire. Donc c'est beaucoup. Hein. Et on estime qu'une bonne assiduité, c'est 20 ou 30 conférences dans l'année sur les 114. Et puis on travaille avec tout le monde. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous merci. Et vous avez le droit et le devoir de poser des questions ou des suggestions, c'est fait pour ça aussi. Alors, est-ce que vous avez des suggestions? Je sais qu'il fait très chaud, donc la souffrance va vite s'arrêter. Hein, voilà. Est-ce que vous avez...